Sud Radio, service compris, Laurence Perrault.
Et vous-même, bien sûr, service compris, c'est, vous le savez, notre rendez-vous. Moi, j'aime bien dire notre rendez-vous parce que j'apprends autant de choses que vous en nous écoutant. Et c'est quelque chose qui est important pour moi parce que les bonnes choses doivent se partager. Sinon, elles n'ont aucune raison d'exister. 0826 300 300. Place à la médecine avec le professeur Christophorov qui est avec nous jusqu'à 14h. Bonjour professeur.
Bonjour Laurence.
Comment allez-vous?
Très bien.
Ça se voit. Vous avez toujours une mine merveilleuse et vous avez un visage rayonnant.
C'est gentil.
Mais c'est vrai. C'est pas que c'est gentil, c'est vrai. Gaspard qui est avec nous en studio pourrait le dire également. On va parler de la médecine préventive avec vous aujourd'hui. C'est un sujet que vous avez voulu parce que c'est important, la médecine préventive.
C'est vrai.
Depuis combien de temps ça existe d'ailleurs? On en parle depuis combien de temps?
Ça existe depuis toujours. Depuis toujours, les gens ont été d'accord pour dire que vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, en prenant certaines mesures particulières, on va réduire le nombre des maladies et on va allonger l'espoir de vie.
C'est une évidence de bon sens. Évidemment, vous me dites que ça existe depuis toujours, mais c'est vraiment intégré dans nos façons de fonctionner avec nos médecins?
Tous, d'une manière plus ou moins consciente, nous sommes d'accord avec cela. C'est la mise en œuvre qui pose un problème, car c'est quelquefois compliqué.
C'est-à-dire?
La médecine préventive la plus efficace, elle a déjà fait son œuvre. Des choses d'hygiène, pas médicales du tout. Par exemple, l'obtention d'une eau pure a réduit la mortalité d'une façon massive. Vous savez que Schubert est mort à 31 ans du choléra, que Tchaïkovski est mort à, je ne sais plus, à 50 et quelques années du choléra. Et combien d'enfants sont morts de gastroentérite? Encore, il en meurt dans le reste du monde, mais pas en France. Donc l'assainissement de l'eau a été extraordinaire. Ensuite, le logement. La tuberculose se propageait particulièrement chez des gens mal nourris et qui vivaient entassés dans de petits logements. Et bien, au cours des années 30, l'amélioration du logement a changé l'endémie tuberculeuse et même la courbe de la tuberculose s'est infléchie avant l'apparition des antibiotiques. Puis il y a les vaccins, bien sûr.
Alors, je voudrais juste vous arrêter quelques instants puisque vous nous parliez de la tuberculose pour nous donner un exemple. Et malheureusement, il y a eu un cas oui, qui date d'hier, et une petite fille qui est décédée de la tuberculose en France.
Tout à fait, une petite Bretonne.
En Bretagne, oui.
Une petite Bretonne de 4 ans. C'est un phénomène exceptionnel parce que la plupart des morts par tuberculose, il y en a à peu près 500-600 par an, ce sont des
en France,
des
il y en a quand même 500-600.
Oui, oui. D'accord. Ce sont des immigrants. Mais cette petite fille est un exemple particulièrement douloureux, car si elle avait été vaccinée par le BCG, probablement elle n'aurait pas eu la méningite tuberculeuse.
Le silence est important parce que voilà, il y a toujours ce sujet qui revient entre les pros et les contre le vaccin, et là on vient d'avoir une preuve supplémentaire que
oui, les vaccins ne sont pas des gens très très subtils. Vous savez, d'une part, ils nuisent aux enfants et ils nuisent aussi à la société, car l'absence de vaccination va faire se propager des maladies. Je vous signale qu'il est mort en Allemagne, il n'y a pas si longtemps, un enfant de la rougeole. On ne doit pas mourir de la rougeole.
Aujourd'hui?
Oui, absolument.
Et ça fait partie, la vaccination quand même, de ce
absolument
qu'on appelle la médecine préventive,
absolument,
qui est notre sujet aujourd'hui, docteur Christophorov. Voilà, c'était bien de rappeler effectivement qu'il y a encore eu un cas, même s'ils sont rares, c'est ben là, hier, d'une petite Bretonne. Roland nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour Roland.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous.
Je prends un petit peu l'émission en route, donc j'ai pas tout suivi. Moi, je voulais poser la question de savoir pourquoi on ne poursuivait pas un petit peu les recherches qu'a fait le docteur Gernès sur la prévention active du cancer. Et parce que ce monsieur qui est d'après ce que je sais, le papa des cellules souches, c'est lui qui les a découvertes, bien qu'il ne voulait pas en être le père, comme il disait, mais bon. Donc je voulais savoir pourquoi on ne continue pas un petit peu ces recherches, sachant que lui-même n'était pas un chercheur en tant que tel, c'était simplement un docteur, et qui préconisait donc un jeûne sur un mois avec diminution de l'alimentation, et au bout d'un mois, prendre un petit peu des compléments alimentaires. et de la colchicine, donc pour affaiblir et tuer les cellules cancéreuses.
Alors, on va laisser...
parallèlement à ça, si vous voulez, il a aussi fait des recherches sur le comment ça s'appelle les ce qu'on pouvait inoculer aux nourrissons comme poussière pour qu'ils soient immunisés.
Alors, on va laisser également parler le professionnel de la santé que nous avons sur Sud Radio, Service Compris, Roland, et le laisser réagir à vos propos. Alors, cette médecine préventive, en tout cas,
écoutez,
par rapport à...
La médecine préventive, le docteur Gernès a sans doute fait des découvertes intéressantes, mais les protocoles qu'il a proposés n'ont absolument pas reçu l'approbation des spécialistes du cancer, et certaines sont même totalement en dehors du bon sens. Hein. Faire jeûner les gens, leur donner la colchicine, non, absolument.
C'est quoi la colchicine ?
C'est un médicament qui empoisonne les cellules. Non, c'est pas... Je crois qu'il serait très long d'en discuter, mais vraiment, c'est non. Alors, la prévention du cancer, elle a d'autres dimensions et qui sont en cours. C'est la prévention du cancer du sein, c'est la prévention du cancer du col, de l'utérus, c'est la prévention du cancer... du côlon, tout cela fonctionne et fonctionne très bien.
Bon ben voilà, Roland, vous avez eu votre réponse du professionnel de santé que nous avons sur Sud Radio, qui est le docteur Christophe Orof.
Oui, ok, c'est pas une réponse qui me satisfait beaucoup, mais bon, c'est pas grave, je comprends. La colchicine est certainement un médicament pas très bon, mais je pense que c'est pas meilleur que la chimio, quoi.
Alors après,
pardonnez-moi, ouais. je vous arrête. La colchicine n'a jamais constitué un traitement du cancer. La chimiothérapie, d'abord, c'est un terme générique qui recouvre un très grand nombre de médicaments. La chimiothérapie peut être toxique, mais elle est en général efficace. Donc on ne peut pas les comparer, hein. Ce sont deux mondes différents.
Merci beaucoup Roland d'être intervenu sur Sud Radio 0826 300 300. On va donner la parole, comme on le fait régulièrement, au maximum de personnes parmi vous. Et juste après Roland, c'est Philippe qui nous rejoint. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Merci et bienvenue dans Service Compris. On vous écoute.
Voilà, j'ai une question par rapport, effectivement, est-ce que la meilleure des préventions, c'est pas notre alimentation ? Vous avez parlé de l'air, de l'eau tout à l'heure, enfin bon, effectivement, ce qu'on respire et ce qu'on mange a une grande importance. Et est-ce que dans la prévention, pour faire un lien avec ce qui a déjà été dit ce matin sur le libre-échange, le fait par exemple de signer ce traité CETA qui va nous permettre d'importer des produits qui sont pas forcément à nos normes, comme le poulet à l'eau de Javel, sans parler du goût, hein, et d'autres élevages dont on a des pratiques qui sont pas franchement conformes à la bonne alimentation saine que nous on l'imagine dans le pays de la gastronomie, est-ce que ça commence pas par là ? C'est-à-dire, est-ce que la meilleure des protections, c'est de l'éducation par l'alimentation, donc de commencer, d'essayer de consommer des produits sains, naturels, de proximité, dont on connaît l'origine, la production, les qualités gustatives, organoleptiques et de santé. Voilà.
Alors, on a bien compris votre question. Philippe, professeur Christophe Orof, l'alimentation, certes, c'est important.
Pas autant que cela. Je vous signale, vous tous qui m'écoutez et qui sans doute pensez que l'alimentation va vous protéger des maladies.
Non, c'est pas ça. C'est qu'une bonne alimentation.
Une bonne alimentation. D'abord, la définition de la bonne alimentation reste à donner. Bien sûr, il ne faut pas faire d'excès, il ne faut pas se nourrir uniquement d'une catégorie de substances, mais il n'y a pas une... En dehors des régimes méditerranéens, on en a parlé la fois dernière, il n'y a pas dans l'alimentation des choses réellement toxiques. Bon, le poulet à l'eau de Javel n'est sans doute pas bon, mais l'eau de Javel n'est pas toxique. Les pesticides que l'on vilipende à ce point se trouvent à des concentrations extrêmement faibles et qui ne sont pas toxiques. Il y a tout un pathos qui tourne autour du bio, autour du naturel et du sans produits chimiques, mais il n'y a aucune preuve nulle part de ça. Nocivité. C'est certainement meilleur de manger sain. Mais ça ne va pas plus loin.
Excusez-moi, vous dites l'eau de Javel n'est pas toxique ?
Si c'est à des concentrations
faibles. Non, mais je préférais qu'on... Oui.
Ça peut vous piquer un peu le nez, mais c'est tout. Et puis, il n'est pas question d'en boire.
Oui, voilà. C'est pour ça que je préférais évidemment qu'on mette les choses au point. Philippe,
oui.
Vous avez votre réponse.
Bah oui, mais elle me satisfait pas complètement.
Mais
c'est
pourquoi
ce que je veux dire.
Alors, voilà. ce qui est assez étonnant, et ce n'est pas un jugement de ma part, ni pour le professeur Christophorov, ni pour vous-même, c'est qu'on a tous effectivement, avec notre vécu, nos expériences, qu'on entend, ce qu'on ingère, etc., la sensation d'avoir des connaissances ou d'avoir raison. Et pourquoi vous, particulièrement Philippe, ça ne vous convient pas? Parce que vous êtes persuadé que si on mange bio, si on mange, on fait super attention à manger telle chose et pas telle chose, on va faire du bien à notre corps.
Bah, je pense qu'il y a aujourd'hui pas mal d'analyses qui convergent vers un point, c'est que je suis d'accord quand le professeur dit manger de l'eau de javel à faible concentration, il n'y a aucun risque, je suis complètement d'accord. Le seul problème, c'est que l'accumulation infinitésimale de dizaines de produits et de pesticides, donc de dérives dans la chaîne alimentaire, sur lesquelles on n'a pas d'études qui tiennent encore la route, produit quand même des effets, et donc c'est des études qui essayent de le démontrer, c'est-à-dire une concentration de petites doses, les petites doses plus les petites doses. Bah, quand ouais. Vous pensez qu'il y a 52 pesticides sur des pommiers, maintenant on se dit, bon, alors si on mange des pommes de temps en temps, ça, je suis d'accord, ça n'a aucune importance. Maintenant, si on consomme l'accumulation de ceci, plus cela, plus les pommes, plus la viande, plus machin, plus l'eau, plus ça, bon, l'eau, c'est pareil, si vous buvez trop d'eau, c'est comme si vous buvez trop d'alcool. Vous allez avoir une ivresse quelque part. Bon,
donc l'abus de tout... Je vous arrête tout de suite. L'abus de l'eau n'est pas toxique, ça je vous le garantis. Non, ce sont des idées qui ne sont confirmées nulle part. Votre idée que l'accumulation des toxiques et des pesticides est toxique, nulle part elle n'a été démontrée. Bon, je ne vous dis pas que le contraire a été démontré, mais nulle part. Ce sont des idées, ce sont des qui peuvent donner lieu à discussion, mais je vous rappelle que l'espérance de vie s'accroît tous les ans, tout en ingérant tous ces produits. Donc voilà.
Ça c'est important. Philippe, je vous souhaite une bonne journée, parce qu'on a aussi Jean-Paul qui veut intervenir, mais professeur Christophorov, je vais être un peu l'avocat du diable et ne pas être votre ami instants. On a Roland qui est intervenu pour nous parler d'un certain docteur qui avait fait la médecine préventive et qui avait proposé des choses sur le cancer. On a Philippe qui arrive et comme j'imagine beaucoup d'auditeurs en écoutant Philippe, je dis bah oui, moi aussi je pense que si je fais attention à ce que je mange, si je prends pas trop de pesticides, regardez l'histoire du plomb dans les poissons gras, etc. Et donc deux fois de suite, vous vous portez en faux. Et des fois on se dit mais ces médecins, alors, évidemment, ils en savent plus que nous, mais pourquoi ils auraient la science infuse et la vérité sur tous ces sujets ?
Nous n'avons pas la science infuse. Nous tenons compte des travaux qui sont publiés dans les revues scientifiques et qui ont donné lieu à des protocoles sérieux. Tout ce qui est dit, tout ce qui est sur les panneaux publicitaires n'est pas vérifié. Pour le plomb, je suis tout à fait d'accord, mais du plomb dans les poissons, excusez-moi, il n'y en a pas actuellement, il n'y a pu y en avoir. Et le reste est à l'avenant. C'est ça, c'est le divorce entre la vraie connaissance et puis la pub et les idées reçues.
Mais en tout cas, voilà, je voulais aussi vous poser la question directement.
Je suis très ferme sur le sujet.
Oui, mais vous avez raison, c'est votre point de vue, comme celui de Philippe ou de Roland. Jean-Paul au 0826-300-300. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Laurence, bonjour professeur.
Bonjour.
Voilà, moi, la question que je me pose, c'est à titre préventif, ne peut-on pas intégrer dans le rythme scolaire, eh bien, je dirais, des sujets abordant la manière d'être préventif sur notre santé en général. Vous disiez vous-même qu'il y avait beaucoup de fausses idées. Est-ce que si on intégrait un peu plus cette notion au niveau scolaire, est-ce qu'on aurait des résultats meilleurs sur 20 ans, hein, je suppose, 10 ou 20 ans peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Eh bien, quels sont les sujets importants? C'est ne pas fumer. Or, allez à la sortie d'une école et vous verrez qui fume et qui ne fume pas.
Oui.
C'est ne pas boire de boissons alcoolisées, d'une manière déraisonnable et même de préférence pas du tout. Enfin, on peut en boire un tout petit peu. C'est d'avoir un poids raisonnable, c'est-à-dire de ne pas se bourrer de boissons sucrées et de barres chocolatées. C'est de faire de l'exercice, alors là c'est très variable. C'est ça les sujets fondamentaux. C'est pas de manger bio, et bon, si vous mangez bio, tant mieux pour vous, mais c'est pas ça qui va assurer chez vous une longévité supplémentaire.
Mais ce que dit Jean-Paul, et je trouve ça plutôt du bon sens, c'est comment... Pourquoi ne pas inclure dans les écoles des petits moments où on leur parle de prévention où on...
Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, souvent, il y a des messages qui passent. Hein, ne croyez pas que ça n'existe pas. Mais je vous dis, ne fumez pas.
Hein. Mais enfin, ça, effectivement, et c'est pas que la seule prévention.
Mais c'est le plus grave.
Oui, mais on parle de médecine préventive, il n'y a pas et que ça. Vous l'avez dit vous-même, tout ce qui est soda, regardez quand on voit les taux d'obésité aux États-Unis ou l'Europe qui commence à être touchée.
Mais je suis d'accord, nous sommes d'accord, vous et moi. Mais la médecine préventive, c'est pas de dire ne mangez pas telle nourriture où peut y avoir des pesticides. C'est mieux sur le plan intellectuel de se dire qu'il n'y a pas de pesticides dans ce qu'on mange. Mais en termes de nuisance pour la santé, ça ne compte pas.
D'accord. Bon, ben Jean-Paul, ça mérite d'être clair.
Tout à fait. Merci.
Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Le professeur Christophorov, qui comme vous, et ça j'aime bien aussi, vous n'avez pas la langue dans votre poche et vous êtes toujours bien attendu, bien sûr, bien entendu, attendu. Voilà, je vais prendre le temps. Au 0826-300-300, le sujet avec le professeur Christophorov jusqu'à 14h, c'est la médecine préventive. Et ces questions que je vous pose, est-ce que vous faites des checks? Est-ce que vous faites des check-up, pardon, des dépistages? Est-ce que votre médecin de famille est peut-être le meilleur médecin en termes de médecine préventive puisqu'il vous connaît bien? Enfin voilà, vous venez poser toutes vos questions. Donnez votre avis, même si ce n'est pas le même que celui de notre invité, le professeur Christophorov. C'est au 0826-300-300. On se retrouve dans quelques instants.
Sud Radio, service compris, Laurence Perrault.
Et nous continuons à parler de la médecine préventive jusqu'à 14h, dernier quart d'heure de service compris. Sur Sud Radio, vous êtes bien sûr les bienvenus, 0826-300-300, avec le professeur Christophorov qui est à nos côtés, qui est un des experts de Sud Radio et ça nous va plutôt pas mal. Professeur Christophorov, on va dans un instant accueillir Lorraine, puis Paul, voilà, tout le monde veut intervenir et c'est plutôt une bonne nouvelle. Je voudrais qu'on parle des check-up, parce que puisqu'on parle de médecine préventive, c'est le sujet de ce jour, le check-up est nécessaire? Est-ce qu'il en fait partie?
Alors il faut introduire des nuances. Il y a eu une époque où on s'est dit, c'est très simple, on va faire passer tout le troupeau humain dans un système où on fera le dépistage de toutes les maladies, et à la suite de ça, eh bien, on traitera les maladies et les gens vont vivre plus longtemps. Et puis on a fait des enquêtes, on a fait des calculs, on s'est aperçu, c'est un peu long à vous expliquer, mais ça n'était pas très rentable, parce qu'en gros, ceux qui sont malades, le jour du dépistage, ils le savent déjà, ils sont traités. Donc il y a un petit nombre de gens qui ne se savent pas malades, ceux du docteur Knock, hein, les gens qui sont bien portants, qui se croient bien portants, qui sont malades. Mais ceux-là sont en tout petit nombre, c'est de l'ordre du 1 pour 1000. Donc le dépistage d'une maladie, si c'est fait de manière mécanique, va coûter très cher. Il faudra faire 999 examens normaux puis tomber sur un malade. Donc on a modifié les principes du dépistage, du check-up, et il est certainement le mieux est certainement que ce soit le médecin généraliste. Il faut avoir un bon généraliste, car il faut connaître le patient, il faut connaître ses antécédents familiaux. Il y a des maladies héréditaires ou faiblement héréditaires. Par exemple, les maladies vasculaires, ce sont des gens qui font un infarctus à 40 ans. Les femmes qui ont des cancers du sein, leurs filles sont menacées.
À partir d'un certain âge. Voilà, parce que si on fait un cancer du sein après 70 ou 80 ans, on est moins considéré dans la génétique.
Mais il y a des nuances. Il y a des nuances, on ne va pas rentrer dedans. Vous avez des gens, des familles où les gens ont des polypes du côlon, des cancers du côlon, etc. Donc, le médecin généraliste sait tout ça. En tout cas, il se renseigne. Ensuite, il regarde son patient et l'examine. Il le pèse, il le toise, il prend sa tension artérielle. Et à ce moment-là, les examens systématiques qu'il va commander sont motivés, ils sont ciblés. Et on a des chances beaucoup plus importantes de tomber sur l'anomalie qui est importante et bien sûr de la traiter.
Donc ce check-up avec son médecin généraliste, d'où l'importance d'avoir quelqu'un qui nous connaît et qui nous suit.
Qui vous connaît et à qui on est fidèle.
Allez, Lorraine, dans quelques instants, mais les sujets aussi des maladies graves, la prévention pour les cancers, les choses comme ça.
Oui.
Ça c'est pareil, c'est ou les AVC ou les maladies cardiovasculaires.
Bien sûr. Alors il y a une liste de choses. Je vous ai parlé des cancers héréditaires. Il y a aussi le tabagisme. Si quelqu'un fume de façon importante, il faut vérifier l'état de ses poumons. Si quelqu'un boit exagérément, il faut surveiller son foie, et ainsi de suite. Il y a tout un tas d'investigations qui sont motivées par les constatations et les connaissances du médecin.
Et ça, c'est important aussi.
Absolument.
De trouver son médecin et puis de lui faire confiance aussi. Lorraine est avec nous au 0826-300-300. Bonjour Lorraine.
Bonjour.
Bonjour professeur, bonjour Laurence. Alors moi, j'aurais une question plutôt par rapport aux produits biologiques, produits bio. J'aimerais savoir s'ils pouvaient prévenir de certaines maladies.
Écoutez, rien de tel n'est prouvé. D'abord, les produits biologiques sont très variés et dans les produits biologiques, on autorise certains pesticides. C'est la règle. Et il n'a jamais été prouvé nulle part que manger biologique protégeait contre des maladies. Peut-être ce sera prouvé un jour, mais je ne le pense pas. Alors manger bio, ça satisfait sur le plan intellectuel. Pour le reste, c'est à voir.
Mmh. Lorraine, ça vous convient comme réponse ?
Oui.
Non, est-ce que vous faites
oui pour savoir s'il y avait différents moyens en fait via l'alimentation de pouvoir effectivement de prévenir certaines maladies, alors pas les plus graves, mais certaines qui pourraient être amoindries par l'alimentation justement, dont le bio.
Écoutez, non, mais nous avons, la fois dernière, nous avons parlé du régime méditerranéen qui, lui, est un élément de prévention très important des maladies. Mais en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de...
Et le régime japonais d'une fameuse île au Japon où ils sont centenaires aussi, plutôt à base de poissons crus.
Écoutez, ça c'est le problème des oméga-3, il n'y a pas d'études scientifiques et les études scientifiques ont donné des résultats divergents, donc on ne peut pas conclure.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... même si j'ai déjà la réponse, qu'en l'occurrence, commercialement ou pour des histoires de marketing, on nous fait croire des choses, on nous survend.
Tout à fait.
Que ce soit le bio, que ce soit le reste.
Le bio est intellectuellement très satisfaisant. Sur le plan médical, ça ne représente pas grand-chose.
Même les vins bio, parce qu'il y a une folie aussi sur les vins bio en ce moment.
Allons.
En fait, le bio, c'est bon pour la terre.
Je ne sais pas.
Plus que... D'accord, ok. Bon, ben Lorraine, on va rester là-dessus. Je vous embrasse.
Merci beaucoup. On vous souhaite
belle journée à vous, Lorraine. C'est important, hein, parce que, voilà, est-ce qu'aujourd'hui on peut tordre le cou ? Et est-ce que de toute façon, puisque chacun est libre de penser ce qu'il veut, est-ce qu'on peut tordre le cou à ces idées reçues ?
Le tordre le cou, si on veut, c'est dire que ce n'est absolument pas nocif. Mais il n'est absolument pas prouvé non plus que c'est bénéfique.
Par contre, là où je me dis, bon, ok, la prévention c'est bien, et puis vous avez eu ce discours en début de rendez-vous de nous dire, voilà, on fait attention aux excès, on n'en a pas trop, évidemment pour ceux qui fument, si vous pouviez arrêter c'est mieux, on est d'accord, et oui, je me sens concernée, mais à un moment je me dis aussi, alors bon, plus fumer, ok, ça pas de souci. Boire, faire attention. Faut faire attention tout le temps. On est quand même dans une société où... Il est où le plaisir ? Et est-ce que le plaisir n'est pas aussi une bonne prévention des maladies ?
Ah, ça, c'est un sujet très, très particulier. Ça veut dire de n'être pas stressé, de vivre une vie heureuse et détendue. Voilà. C'est sans doute un élément positif, mais sans commune mesure avec les autres nuisances. Je vous rappelle quelque chose. En 1800, temps de Napoléon, l'espérance de vie à la naissance était de 35 ans. En 1900, elle était de 48 ans. En 2000, elle est de 80 ans. Alors,
en 100 ans, voilà. On a alors, multiplié la durée de vie.
Je ne sais pas si le plaisir sous Napoléon était supérieur à ce qu'il est maintenant, parce que l'homme est un animal assez curieux, mais en tout cas, les gens vivent davantage.
Paul est avec nous au 0826-300-300. Et bien sûr, vous pouvez nous rejoindre, vous aussi, pour rencontrer le professeur Christophe Orof sur Sud Radio, dans Service Compris. Et on parle des médecines préventives ou de la prévention santé. Vous n'hésitez pas. Bonjour, Paul.
Bonjour, Laurence. Bonjour, professeur. Moi, bonjour. Je voulais savoir s'il y avait des choses à faire pour améliorer la prévention des maladies psychologiques.
C'est un sujet très compliqué, très important. Je ne suis pas psychiatre, mais il y a des maladies psychologiques qui ont une cause profonde, quelquefois même génétique. Les grandes psychoses qui font que les gens passent leur vie dans des établissements psychiatriques.
Un exemple concret ?
Bon, la schizophrénie.
Oui, voilà. Bon. Mettons des noms.
Mais les troubles névrotiques les plus courants, certainement. Cela passe par une éducation correcte, par le développement d'une affectivité entre parents et enfants, qui est quelque chose de très important.
Alors attendez, développez-la.
Je suis très étonné qu'on enseigne dans les écoles et dans les lycées des choses très compliquées, mais on ne leur enseigne pas des rudiments de vie familiale, d'expliquer que les enfants ont besoin d'être aimés. Que beaucoup d'enfants croient qu'ils ne sont pas aimés de leurs parents et qu'ils découvrent un jour que leurs parents les aiment. Il y a tout un comportement qu'il faut favoriser. Il y a pas, on ne peut pas donner des règles, on ne peut pas dire c'est de votre faute si votre enfant... Non, il ne faut pas culpabiliser les gens. Mais il y a certainement une amélioration à obtenir.
Et donc ça veut dire que par rapport à la question de Paul, cette prévention sur les maladies psychologiques, elle pourrait aussi exister, ou est-ce qu'elle existe déjà?
Oui, c'est très compliqué. Je ne veux pas entrer, d'abord je ne suis pas compétent complètement, c'est plus en père de famille et en homme d'un certain âge que je vous parle qu'en médecin. Mmh.
Diffusons l'amour et montrons-le à nos enfants dans l'entourage familial.
Et puis, ayons un comportement convenable,
respectueux et bienveillant,
voilà.
Avec tous.
Oui.
Ça fait du bien et c'est tellement plus facile à faire que le reste. Paul, ben voilà.
Voilà, merci beaucoup.
Mais de rien. Ça va bien, vous?
Oui, ça va très bien.
Pas de problème psychologique?
Non. Pas de problème particulier.
Et vous faites un peu de prévention en ce qui vous concerne par rapport à la médecine? Vous faites attention à des choses? Vous allez voir votre médecin généraliste? Vous faites des check-up?
Oui. Mais je me demandais aussi sur l'alimentation, si ça pouvait jouer sur les problèmes psychologiques ou pas du tout.
Je ne crois pas. Sauf sur la corpulence, mais c'est plutôt aussi l'inverse. Un excès de corpulence entraîne des troubles chez les gens qui souffrent d'être différents des autres.
Pourquoi cette question ciblée, Paul?
C'est juste une simple curiosité de ma part.
Et simple curiosité, parce que c'est vrai que l'alimentation revient beaucoup dans la tête des gens.
C'est pas en mangeant des carottes qu'on devient aimable.
Ni lapin. Le lendemain de la Saint-Valentin. Je vous embrasse.
Merci.
On traite de la médecine préventive dans notre rendez-vous jusqu'à 14h, déjà depuis plus d'une demi-heure. Et c'est vrai que l'alimentation revient
énormément, beaucoup
dans les questions des auditeurs.
C'est la France.
Et c'est peut-être la seule chose que nous, on peut gérer, en fait.
On pense beaucoup à cela. Et puis, il y a un sentiment profond, j'ai déjà dit, depuis Hippocrate, ils disent qu'il faut manger convenablement pour ne pas avoir telle ou telle maladie. On a l'impression que ce qui entre en nous va déterminer des phénomènes de santé. Ce qui n'est que très partiellement vrai.
Ceci dit, pour revenir sur vos fameuses carottes qu'on ne va pas toujours manger parce qu'on risquerait de devenir aimable, si on mange beaucoup de carottes ou beaucoup de carotènes et beaucoup de tomates, on voit bien à l'extérieur qu'on change de couleur. Donc l'alimentation a un effet sur le corps.
C'est très marginal.
Allez, Jean-Michel également, qui sera peut-être notre dernier auditeur à nous rejoindre sur Service Compris sur Sud Radio. Bonjour Jean-Michel.
Oui, bonjour madame, j'ai oublié votre prénom.
Laurence, madame Laurence, ça fait bien.
Madame Laurence, ça fait un peu bizarre, parce qu'on a connu madame Claude, mais ça peut faire bizarre.
Mais ça sera jauni, voilà, c'est pas la même génération.
Madame Laurence, bonjour.
Et madame Laurence, c'est juste avant madame Brigitte à 14h, sur Sud Radio.
Oui, ça va.
On vous écoute Jean-Michel.
Alors, moi, je voulais dire au professeur qu'il a tout à fait raison. La prévention, c'est une très bonne chose. Parce que, j'ai créé ma première entreprise, j'avais 20 ans, et je faisais des journées de 15 à 20 heures. Et donc, j'avais pris par habitude d'aller voir le médecin une fois par an, pour voir comment j'étais, même à 22 ou 24 ans ou 25 ans. Et un jour, quand j'ai eu 36 ans, j'ai été le voir et il m'a découvert de l'hypertension. Et alors il m'a dit, si tu n'étais pas venu me voir, tu aurais été peut-être mort dans 6 mois. Et voilà, et ça dure depuis 20 ans, donc c'est pas mal. Voilà, la prévention, ça peut être utile.
Ah bah carrément, oui. Voilà. Professeur Christophe Roff,
on a... Tout à fait, parce que l'hypertension artérielle, c'est quelque chose que l'on ne perçoit pas soi-même, que celui qui mesure la tension peut détecter.
Et puis on le sait bien, par rapport à Jean-Michel, votre témoignage, pas pour revenir simplement sur les cancers, mais... On sait très bien que plus un cancer est détecté tôt, donc en prévention, plus on a de chances pour certains cancers, pas pour d'autres, parce que je ne suis pas une spécialiste.
Oui, en général, c'est vrai.
D'arriver à les éradiquer.
Quand on démarre de bonne heure, on peut mieux soigner, c'est sûr.
Bien sûr.
Voilà, le professeur le sait mieux que moi, mais je le sais un peu aussi. Voilà.
Et Jean-Michel, comment allez-vous aujourd'hui?
Je vais très bien, ça va, tout va bien, mais il n'y a pas de souci. Hein. Vous savez, l'hypertension, ça se traite très bien. Et si on est discipliné, tout va bien. Voilà, il n'y a pas de problème.
Vous êtes ce qu'on appelle un hypertendu, des fois.
Oui, je suis un hypertendu, mais ça n'empêche pas que j'ai une tension de 13,8 depuis 15 ans au moins. Mais voilà, c'est comme ça.
Et tout va bien. Et c'est cool.
Il y a un petit cacheton tous les matins et tout va bien.
Ah oui. Et vous habitez où, Jean-Michel?
Comment?
Vous habitez où?
J'habite dans le Gers.
Oh, que j'aime le Gers. Dans quelle région du Gers, à côté de quelle ville?
Je suis dans le bas armagnac, on va dire. Voilà. Donc, on peut des fois goûter un peu d'armagnac avec beaucoup de légumes, c'est pas mauvais non plus.
Voilà, le tout avec modération.
C'est le bas armagnac qui est meilleur.
Ouais, le bas armagnac.
Absolument.
C'est pas le, c'est pas le bazar plus loin maniaque comme le bazar du
non,
BHV. C'est
non, c'est le.
Mais oui, je vous taquine, Jean-Michel. Je vous embrasse.
C'est le bas armagnac. Je vous embrasse et encore merci pour vos émissions qui sont très bien et merci au professeur. Et dites au professeur que s'il veut, il veut un jour, on l'invitera à notre table. Ça peut lui être utile. Voilà.
Ah ben, c'est une bonne idée. Bonne idée.
Pour goûter un bon bas armagnac. Allez,
repas,
au revoir Jean-Michel.
Repas,
au revoir. C'est au revoir. Au revoir. Et j'en profite pour salut Jean-Michel. J'en profite pour pour saluer le très très beau département du Gers. C'est pas totalement terminé, professeur Christophorov. Il nous reste une petite minute. On va juste évidemment rappeler les béabas de la médecine préventive que nous devrions tous mettre en place dès maintenant en fait.
Oui, tout à fait. Un suivi régulier. La prévention des maladies métaboliques, l'obésité, le cholestérol, sur le plan cardiaque, la surveillance de la tension artérielle, et bien entendu le dépistage des grands cancers, le sein chez la femme, le côlon dans les deux sexes, et puis les autres cancers en fonction de la génétique, de l'histoire personnelle des gens.
Voilà, et puis il y a des campagnes avec la sécurité sociale à partir d'un certain âge où vous avez gratuitement important de les faire.
Absolument.
Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup, professeur Christophorov.
Merci à vous.